Peter Murphy, vous êtes de passage à Rome, vous êtes américain, ancien du collège de l'OTAN. Comment est-ce qu'on arrive à l'OTAN ?
J'étais nommé au collège de l'OTAN ici à Rome il y a 17 ans maintenant par le département d'État à Washington. J'avais fait à cette époque plus que 20 ans de service diplomatique pour les États-Unis. Et alors ensuite, après 20 ans, tout le monde suit une cour de hautes études un peu partout dans le monde. Et moi, j'étais choisi pour être envoyé ici au collège de l'OTAN.
Est-ce que c'est facile de collaborer avec les autres représentants français, italiens ?
Et je trouve que l'idée de travailler ensemble à l'OTAN, c'est vraiment formidable pour les militaires et pour les diplomates.
Bien sûr. Parce que pour nos auditeurs, vous n'êtes pas militaire,
non,
n'est-ce pas ?
Non, pas du tout.
Vous
pas
êtes
du tout.
Diplomate.
Diplomate, voilà. Alors, je dois dire que dans le collège de l'OTAN, c'est plutôt militaire, bien sûr. C'est une organisation militaire. Il y a parmi les étudiants 90% qui sont militaires de haut niveau, colonel ou bien général ou admiral. Dans mon cours, par exemple, il n'y avait que 5 diplomates. Souvent, nos diplomates, nous avons eu les mêmes idées contre nos collègues militaires. Parce que c'était plus facile. Ça veut dire que c'était plus facile pour nous à parler des choses politiques et militaires que de parler avec des militaires de notre propre pays. On avait, par exemple, des war games. Alors, ça veut dire qu'ils ont posé un problème. C'était pendant la période de la guerre froide. Hein. Alors, ils ont posé un problème d'une invasion de Russie en Allemagne de l'Ouest et tout ça. C'était pour nous, des étudiants, de suivre et de trouver un moyen de faire la paix sans faire la guerre. Et là, souvent, les diplomates étaient beaucoup plus unis que les militaires. Pour les militaires, spécialement pour les militaires américains, parce que je les connais très bien, il y avait 5 officiers de la marine et de l'armée qui avaient beaucoup d'expérience à cette époque au Vietnam. Mais il y avait, parmi les 5, il n'y avait personne qui est venu jamais en Europe. Ils ne connaissaient pas vraiment la situation de l'OTAN profonde. Mais je dois dire qu'après 6 mois, d'ensemble, de voyager, de visiter les bases militaires en Turquie, en Grèce, aux États-Unis, au Canada. Ils ont bien appris des choses. Je vous donne un exemple. Moi, après 6 mois que j'ai passé ici, j'étais nommé consul général des États-Unis à Gênes. Et alors, 2 semaines après, il y avait un petit incident avec un bateau de guerre italien. Il y avait une petite collision, pas loin de Gênes, mais dans le district consulaire de Gênes. De notre consulat général. Alors, normalement, le moyen de communication, c'est pas mis du consulat jusqu'à la Farnesina, le ministère des Affaires étrangères ici à Rome, et puis le ministère de Défense, et puis à Washington, et tout ça. Moi, j'ai connu une amirale qui était mon collègue il y a 2-3 semaines avant. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné chez lui, et c'était fini en 2 heures. C'est pour ça que le collège était créé par le général Eisenhower. Je crois qu'il était vraiment brillant de le faire. Il avait fait ça après la guerre à Paris. Il a trouvé que c'était bien pour les militaires de tous les pays de l'OTAN de se connaître. C'est bien réussi, je trouve.
Et la diplomatie est arrivée en même temps ?
La diplomatie est arrivée quelques années après. Je crois que c'était 5 ans après qu'ils ont intégré quelques diplomates dans le collège.
Et le rôle spécifique de la diplomatie au sein de l'OTAN ?
Alors le rôle de la diplomatie, c'est très important parce qu'il y a toujours des diplomates accrédités auprès de l'OTAN, à Bruxelles, dans chaque pays de l'OTAN. Et même des pays qui ne sont pas membres de l'OTAN, ils ont des représentants là-bas aussi. Parce que quand il y a une crise dans le monde, on tente de résoudre le problème par moyen pacifique au lieu d'une guerre. Et juste pour vous donner un exemple, l'autre jour, nous avons eu notre 2 jours de réunion des anciens de l'OTAN. Nous étions plus que 150 ici à Rome et on avait une journée très intéressante, problème de sécurité énergétique et les réponses politiques à ce problème. Alors après, bien sûr, avec les complications de la guerre en Irak, la production de pétrole en Iran, en Libye, en Venezuela et tout ça, et la sécurité de transport de tous ces pétroles. Plus que 65% de tout le gaz utilisé en Europe de l'Ouest passe par la Méditerranée. et c'est pas tellement connu, mais les bateaux de guerre de l'OTAN suivent,
protègent
le transport de pétrole. C'est très important. Aujourd'hui, avec le terrorisme dans le monde.
Dans votre carrière, quelle a été la mission qui vous a le plus touché?
J'ai fait plusieurs postes de ma vie. En Argentine, deux fois à Paris, après le Collège de l'OTAN, à Gênes. Après Gênes, j'ai été nommé ambassadeur au Jamaïque. Mais je n'ai jamais visité le pays. Parce que deux semaines avant qu'on a quitté Gênes, la Maison Blanche a téléphoné parce que le président avait décidé, avec l'accord avec notre congrès, d'établir une ambassade près de Saint-Siège. C'était en 84. J'ai pu participer et diriger l'établissement de notre première ambassade en Europe de l'Ouest depuis 100 ans. Parce que, et bien sûr, j'étais le premier ministre. Alors, je n'avais pas de prédécesseur à Washington. Je ne pouvais demander à personne ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y avait à ce moment plus que 90 ambassades près du Vatican.
Et comment se fait-il que les États-Unis n'étaient pas encore représentés?
Alors, le dernier représentant des États-Unis était pendant notre guerre civile. Pendant la guerre de sécession, Rome a donné le support au sud des États-Unis. Alors, cet fait-là, et aussi le fait qu'il y avait beaucoup d'opposition d'envoyer ambassadeurs près de le Saint-Siège.
Et donc, en 1984, le président...
Oui, c'était le président Reagan, Ronald Reagan, qui a décidé...
Qui a décidé. Pourquoi est-ce qu'il a décidé?
Alors, mais il y avait plusieurs présidents qui ont essayé, mais c'était toujours rejeté par le Congrès. Mais je sais personnellement que le président Reagan a décidé, après une longue conversation avec la reine d'Angleterre, c'était pas un dîner d'État, mais c'était un dîner intime pour le président et sa femme et quelques collaborateurs. Et à ce moment-là, pendant le dîner, le président a demandé « Comment ça se fait que vous avez changé le représentant près de le Saint-Siège? Vous avez eu jusqu'à maintenant une légation, jusqu'à l'année dernière, et maintenant c'est une ambassade. » Alors la reine a répondu que ça vaut la peine, c'était une santé internationale, qu'il y avait beaucoup de travail, même politique, c'était dans l'intérêt national du Cambodge. D'avoir une ambassade près de Saint-Siège. Alors, c'était la confirmation qu'il avait besoin.
Pour vous, ça a été un grand moment.
C'était un grand moment pour moi et pour ma famille aussi. Je dois dire que la chose plus délicate et plus intéressante pour moi, c'était la période de Soledad Noche. Nous avons pu fournir une formation à Saint-Siège et de travailler ensemble pour la fin du communisme.
Votre mission, c'était...
C'était plutôt ça. C'était parce que notre ambassade ici, c'est différent que toutes les ambassades du monde. Parce que nous avons un but politique seulement. On n'avait jamais touché le sujet de religion dans nos pays. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas, par exemple, recommander les nominations d'un évêque américain à tel et tel siège aux États-Unis. Alors, mais c'est vraiment une position clé, je trouve, dans le monde. Bien sûr, au début, ce n'était pas facile parce que personne à Washington n'a compris ce qu'on faisait. Dans la Maison Blanche, dans le département d'État, dans tous les ministères de Washington, j'avais des amis qui me téléphonaient de temps en temps. « Faites, qu'est-ce que vous faites à Rome? Qu'est-ce que vous faites toute la journée ?» Alors, nous étions très peu, nous étions que 12 personnes dans l'ambassade.
Donc, dites que c'était un poste clé. Expliquez-nous un peu.
Voilà, c'était en 85 que j'avais reçu une délégation de 5 rabbins des États-Unis qui sont venus pour me convaincre de pousser les pouvoirs dans le Saint-Siège pour donner la reconnaissance diplomatique à l'État d'Israël. Alors, pendant les 4 ans et demi que j'étais ici, j'ai travaillé pour ce but. Et j'ai pu, avec d'autres amis, avec les collaborations des gens de nos secrétaires d'État ici au Vatican, travailler pour la visite du Saint-Père à la synagogue de Rome. Et j'étais très content que c'était fait. On peut dire que ce n'est pas du tout un travail politique. Mais moi, je trouve que c'est un travail politique parce que c'est une unification, une réunion de deux peuples, les Danemans, les chrétiens, les juifs. Moi, je trouve que l'ambiance aux États-Unis est changée. Et je suis sûr qu'en Europe aussi. Et maintenant, aujourd'hui, nous avons un ambassadeur d'Israël ici, près de Saint-Siège. Je suis très content.
Et vous y avez collaboré d'une certaine façon.
C'est ça, oui. Vous savez, depuis que j'étais au lycée, j'ai toujours rêvé d'être une diplomate. de travailler parmi des étrangers, de comprendre des cultures différentes, d'apprendre des langues différentes, même si tu as toujours un accent. Mais le but de diplomatie, bien sûr, c'est l'intérêt national d'un pays, mais c'est aussi de créer une atmosphère dans le monde, une atmosphère de paix. Et je trouve que ça, c'est le but aussi, un des buts principaux de la Saint-Siège.
Qu'est-ce que vous aimeriez confier ?
Je voudrais encourager les jeunes dans le monde de penser de suivre une carrière diplomatique. Moi, je trouve que ça vaut la peine. Ce n'est pas facile, ce n'est pas toujours facile. En Argentine, quand j'étais là à Cordoba, j'avais 18 balles dans ma voiture, des terroristes. J'ai survécu. Mais c'était pour ma femme, c'était difficile, pour les enfants aussi. Des fois, il y a des sacrifices que les familles doivent faire aussi, des séparations de familles, quand vous êtes dans un pays lointain où il y a un danger, où il y a une guerre, les familles ne peuvent pas me suivre. Moi, je trouve que pour une satisfaction humaine, la vie d'un diplomate, c'est top.
Vous incarnez aussi finalement bienheureux les artisans de paix.
Voilà, c'est exactement ça, bienheureux les artisans de paix.
Merci.
Je vous en prie, ma sœur.